première partie, chapitre 6. Ah, Robert, qu'on est bien chez vous, lui dis-je. Comme il serait bon qu'il fût permis d'y dîner et d'y coucher. Et en effet, si cela n'avait pas été défendu, quel repos sans tristesse j'aurais goûté là, protégé par cette atmosphère de tranquillité, de vigilance et de gaieté, qu'entretenaient mille volontés réglées et sans inquiétude, mille esprits insouciants, dans cette grande communauté qu'est une caserne, où, le temps ayant pris la forme de l'action, la triste cloche des heures était remplacée par la même joyeuse fanfare de ces appels dont on était perpétuellement tenu en suspens sur les pavés de la ville, émiettés et pulvérulents, le souvenir sonore. Voix sûre d'être écoutée et musicale, parce qu'elle n'était pas seulement le commandement de l'autorité à l'obéissance, mais aussi de la sagesse au bonheur. Ah, vous aimeriez mieux coucher ici près de moi que de partir seul à l'hôtel, me dit Saint-Loup en riant. Oh, Robert, vous êtes cruel de prendre cela avec ironie, lui dis-je, puisque vous savez que c'est impossible et que je vais tant souffrir là-bas. Eh bien, vous me flattez, me dit-il, car j'ai justement eu de moi-même cette idée que vous aimeriez mieux rester ici ce soir. Et c'est précisément cela que j'étais allé demander au capitaine. « Et il a permis ? » m'écriai-je. « Sans aucune difficulté. »« Oh, je l'adore !»« Non, c'est trop. Maintenant, laissez-moi appeler mon ordonnance pour qu'il s'occupe de notre dîner, » ajouta-t-il, pendant que je me détournais pour cacher mes larmes. Plusieurs fois entrèrent l'un ou l'autre des camarades de Saint-Loup. Il les jetait à la porte. « Allons, fous le camp !» Je lui demandai de les laisser rester. « Mais non, ils vous assommeraient. Ce sont des êtres tout à fait incultes qui ne peuvent parler que course, si ce n'est pensage. Et puis même pour moi, ils me gâteraient ces instants si précieux que j'ai tant désirés. Remarquez que si je parle de la médiocrité de mes camarades, ce n'est pas que tout ce qui est militaire manque d'intellectualité. Bien loin de là. Nous avons un commandant qui est un homme admirable. Il a fait un cours où l'histoire militaire est traitée comme une démonstration, comme une espèce d'algèbre. Même esthétiquement, c'est d'une beauté tour à tour inductive et déductive à laquelle vous ne seriez pas insensible. Ce n'est pas le capitaine qui m'a permis de rester ici ? Non, Dieu merci, car l'homme que vous adorez pour peu de choses est le plus grand imbécile que la terre ait jamais porté. Il est parfait pour s'occuper de l'ordinaire et de la tenue de ses hommes. Il passe des heures avec le maréchal des logis-chefs et le maître tailleur. Voilà sa mentalité. Il méprise d'ailleurs beaucoup, comme tout le monde, l'admirable commandant dont je vous parle. Personne ne fréquente celui-là, parce qu'il est franc-maçon et ne va pas à confesse. Jamais le prince de Borodino ne recevrait chez lui ce petit bourgeois. Et c'est tout de même un fameux culot de la part d'un homme dont l'arrière-grand-père était un petit fermier, et qui, sans les guerres de Napoléon, serait probablement fermier aussi. Du reste, il se rend bien un peu compte de la situation, ni chair ni poisson, qu'il a dans la société. Il va à peine au jockey, tant il y est gêné, ce prétendu prince, ajouta Robert, qui, ayant été amené par un même esprit d'imitation à adopter les théories sociales de ses maîtres et les préjugés mondains de ses parents, unissait, sans s'en rendre compte, à l'amour de la démocratie le dédain de la noblesse d'empire. Je regardais la photographie de sa tante et la pensée que Saint-Loup, possédant cette photographie, il pourrait peut-être me la donner, me fit le chérir davantage et souhaiter de lui rendre mille services qui me semblaient peu de chose en échange d'elle. Car cette photographie, c'était comme une rencontre de plus ajoutée à celle que j'avais déjà faite de Madame de Guermantes. Bien mieux, une rencontre prolongée, comme si, par un brusque progrès dans nos relations, elle s'était arrêtée auprès de moi, en chapeau de jardin, et m'avait laissé, pour la première fois, regarder à loisir ce gras de joue, ce tournant de nuque, ce coin de sourcil, jusqu'ici voilé par moi par la rapidité de son passage, l'étourdissement de mes impressions, l'inconsistance du souvenir. Et leur contemplation, autant que celle de la gorge et des bras d'une femme que je n'aurais jamais vue qu'en robe montante, m'était une voluptueuse découverte, une faveur. Ces lignes qu'il me semblait presque défendu de regarder, je pourrais les étudier là, comme dans un traité de la seule géométrie qui eût de la valeur pour moi. Plus tard, en regardant Robert, je m'aperçus que lui aussi était un peu comme une photographie de sa tante, et par un mystère presque aussi émouvant pour moi, puisque si sa figure à lui n'avait pas été directement produite par sa figure à elle, toutes deux avaient cependant une origine commune. Les traits de la duchesse de Guermantes, qui étaient épinglés dans ma vision de Combray, le nez en bec de faucon, les yeux perçants, semblaient avoir servi aussi à découper, dans un autre exemplaire analogue et mince d'une peau trop fine, la figure de Robert, presque superposable à celle de sa tante. Je regardais sur lui avec envie ces traits caractéristiques des Guermantes, de cette race restée si particulière au milieu du monde, où elle ne se perd pas et où elle reste isolée dans sa gloire divinement ornithologique, car elle semble issue, aux âges de la mythologie, de l'union d'une déesse et d'un oiseau. Robert, sans en connaître les causes, était touché de mon attendrissement. Celui-ci, d'ailleurs, s'augmentait du bien-être causé par la chaleur du feu et par le vin de champagne qui faisait perler en même temps des gouttes de sueur à mon front et des larmes à mes yeux. Il arrosait des perdreaux. Je les mangeais avec l'émerveillement d'un profane, de quelque sorte qu'il soit, quand il trouve dans une certaine vie qu'il ne connaissait pas ce qu'il avait cru qu'elle excluait, par exemple d'un libre penseur faisant un dîner exquis dans un presbytère. Et le lendemain matin, en m'éveillant, j'allais jeter par la fenêtre de Saint-Loup, qui, située fort haut, donnait sur tout le pays, un regard de curiosité pour faire la connaissance de ma voisine, la campagne, que je n'avais pas pu apercevoir la veille, parce que j'étais arrivée trop tard, à l'heure où elle dormait déjà dans la nuit. Mais de si bonne heure qu'elle fût éveillée, je ne la vis pourtant en ouvrant la croisée, comme on la voit d'une fenêtre de château, du côté de l'étang, qu'en mitouflée encore dans sa douce et blanche robe matinale de brouillard qui ne me laissait presque rien distinguer. Mais je savais qu'avant que les soldats qui s'occupaient des chevaux dans la cour eussent fini leur pansage, elle l'aurait dévêtue. En attendant, je ne pouvais voir qu'une maigre colline, dressant tout contre le quartier son dos déjà dépouillé d'ombre, grêle et rugueux. À travers les rideaux ajourés de givre, je ne quittais pas des yeux cette étrangère, qui me regardait pour la première fois. Mais quand j'eus pris l'habitude de venir au quartier, la conscience que la colline était là, plus réelle par conséquent, même quand je ne la voyais pas, que l'hôtel de Balbec, que notre maison de Paris, auquel je pensais comme à des absents, comme à des morts, c'est-à-dire sans plus guère croire à leur existence, fit que, même sans que je m'en rendisse compte, sa forme réverbérée se profila toujours sur les moindres impressions que j'eus à Doncière. Et, pour commencer par ce matin-là, sur la bonne impression de chaleur que me donna le chocolat, préparé par l'ordonnance de Saint-Loup dans cette chambre confortable, qui avait l'air d'un centre optique pour regarder la colline. L'idée de faire autre chose que la regarder et de s'y promener étant rendue impossible par ce même brouillard qu'il y avait. Imbibant la forme de la colline associée au goût du chocolat, et à toute la trame de mes pensées d'alors. Ce brouillard, sans que je pensasse le moins du monde à lui, vint mouiller toutes mes pensées de ce temps-là. Comme tel or, inaltérable et massif, était resté allié à mes impressions de Balbec, ou comme la présence voisine des escaliers extérieurs de grès noirâtre donnait quelques grisailles à mes impressions de Combray. Il ne persista d'ailleurs pas tard dans la matinée. Le soleil commença par user inutilement contre lui quelques flèches qui le passementèrent de brillants, puis en eurent raison. La colline put offrir sa croupe grise aux rayons, qui, une heure plus tard, quand je descendis dans la ville, donnait au rouge des feuilles d'arbres, aux rouges et aux bleus des affiches électorales posées sur les murs, une exaltation qui me soulevait moi-même et me faisait battre, en chantant, les pavés sur lesquels je me retenais pour ne pas bondir de joie. Mais, dès le second jour, il me fallut aller coucher à l'hôtel. Et je savais d'avance que fatalement j'allais y trouver la tristesse. Elle était comme un arôme irrespirable que, depuis ma naissance, exhalait pour moi toute chambre nouvelle, c'est-à-dire toute chambre. Dans celle que j'habitais d'ordinaire, je n'étais pas présent. Ma pensée restait ailleurs et, à sa place, envoyait seulement l'habitude. Mais je ne pouvais charger cette servante moins sensible de s'occuper de mes affaires dans un pays nouveau, où je la précédais, où j'arrivais seul, où il me fallait faire entrer en contact avec les choses ce « moi » que je ne retrouvais qu'à des années d'intervalle, mais toujours le même, n'ayant pas grandi depuis Combray, depuis ma première année à Balbec, pleurant sans pouvoir être consolé sur le coin d'une mâle défaite. Or, je m'étais trompé. Je n'eus pas le temps d'être triste, car je ne fus pas un instant seul. C'est qu'il restait du palais ancien un excédent de luxe, inutilisable dans un hôtel moderne, et qui, détaché de toute affectation pratique, avait pris dans son désœuvrement une sorte de vie. Couloirs revenant sur leurs pas, dont on croisait à tout moment les allées et venues sans but. Vestibules longs comme des corridors et ornés comme des salons, qui avaient plutôt l'air d'habiter là que de faire partie de l'habitation, qu'on n'avait pu faire entrer dans aucun appartement, mais qui rôdaient autour du mien et vinrent tout de suite m'offrir leur compagnie. Sorte de voisins oisifs, mais non bruyants, de fantômes subalternes du passé, à qui on avait concédé de demeurer sans bruit à la porte des chambres qu'on louait, et qui, chaque fois que je les trouvais sur mon chemin, se montraient pour moi d'une prévenance silencieuse. En somme, l'idée d'un logis, simple, contenant de notre existence actuelle et nous préservant seulement du froid, de la vue des autres, était absolument inapplicable à cette demeure, ensemble de pièces aussi réelles qu'une colonie de personnes, d'une vie, il est vrai silencieuse, mais qu'on était obligé de rencontrer, d'éviter, d'accueillir quand on rentrait. On tâchait de ne pas déranger et on ne pouvait regarder sans respect le grand salon qui avait pris, depuis le XVIIIe siècle, l'habitude de s'étendre entre ses appuis de vieil or sous les nuages de son plafond peint. Et on était pris d'une curiosité plus familière pour les petites pièces qui, sans aucun souci de la symétrie, couraient autour de lui, innombrables, étonnées, fuyant en désordre jusqu'au jardin où elles descendaient si facilement par trois marches ébréchées. Si je voulais sortir ou rentrer sans prendre l'ascenseur ni être vu dans le grand escalier, un plus petit, privé, qui ne servait plus, me tendait ses marches si adroitement posées l'une tout près de l'autre qu'il semblait exister dans leur gradation une proportion parfaite du genre de celles qui, dans les couleurs, dans les parfums, dans les saveurs, viennent souvent émouvoir en nous une sensualité particulière. Mais celle qu'il y a à monter et à descendre, il m'avait fallu venir ici pour la connaître. Comme jadis, dans une station alpestre, pour savoir que l'acte, habituellement non perçu, de respirer, peut-être une constante volupté. Je reçus cette dispense d'effort que nous accordent seules les choses dont nous avons un long usage, quand je posai mes pieds pour la première fois sur ces marches, familières avant d'être connues, comme si elles possédaient, peut-être déposées, incorporées en elles par les maîtres d'autrefois qu'elles accueillaient chaque jour, la douleur anticipée d'habitudes que je n'avais pas contractées encore et qui même ne pourraient que s'affaiblir quand elles seraient devenues miennes. J'ouvris une chambre, la double porte se referma derrière moi. La draperie fit entrer un silence sur lequel je me sentis comme une sorte d'enivrante royauté. Une cheminée de marbre, ornée de cuivre ciselé, dont on aurait eu tort de croire qu'elle ne savait que représenter l'art du directoire, me faisait du feu, et un petit fauteuil bas, sur pied, m'aida à me chauffer aussi confortablement que si j'eusse été assis sur le tapis. Les murs étreignaient la chambre, la séparant du reste du monde, et, pour y laisser entrer et enfermer ce qui la faisait complète, s'écartaient devant la bibliothèque, réservaient l'enfoncement du lit, des deux côtés duquel des colonnes soutenaient légèrement le plafond surélevé de l'alcôve. Et la chambre était prolongée dans le sens de la profondeur par deux cabinets aussi larges qu'elle, dont le dernier suspendait à son mur, pour parfumer le recueillement qu'on y vient chercher, un voluptueux rosaire de grains d'iris. Les portes, si je les laissais ouvertes pendant que je me retirais dans ce dernier retrait, ne se contentaient pas de le tripler, sans qu'il cessât d'être harmonieux, et ne faisaient pas seulement goûter à mon regard le plaisir de l'étendue après celui de la concentration, mais encore ajoutaient au plaisir de ma solitude, qui restait inviolable et cessait d'être enclose, le sentiment de la liberté. Ce réduit donnait sur une cour, belle, solitaire, que je fus heureux d'avoir pour voisine, quand, le lendemain matin, je la découvris, captive entre ces hauts murs, où ne prenait jour aucune fenêtre, et n'ayant que deux arbres jaunis qui suffisaient à donner une douceur mauve au ciel pur. Avant de me coucher, je voulus sortir de ma chambre pour explorer tout mon féerique domaine. Je marchais en suivant une longue galerie qui me fit successivement hommage de tout ce qu'elle avait à m'offrir si je n'avais pas sommeil. Un fauteuil placé dans un coin, une épinette, sur une console un pot de faïence bleue rempli de cinéraire, et dans un cadre ancien le fantôme d'une dame d'autrefois, aux cheveux poudrés mêlés de fleurs bleues et tenant à la main un bouquet d'œillets. Arrivé au bout, son mur plein où ne s'ouvrait aucune porte me dit naïvement « Maintenant, il faut revenir, mais tu vois, tu es chez toi. » Tandis que le tapis moelleux ajoutait, pour ne pas demeurer en reste, que si je ne dormais pas cette nuit, je pourrais très bien venir nu-pied, et que les fenêtres s'envolaient qui regardaient la campagne m'assuraient qu'elles passeraient une nuit blanche, et qu'en venant à l'heure que je voudrais, je n'avais à craindre de réveiller personne. Et derrière une tenture, je surpris seulement un petit cabinet qui, arrêté par la muraille et ne pouvant se sauver, s'était caché là, tout penaud, et me regardait avec effroi de son œil de bœuf rendu bleu par le clair de lune. Je me couchai, mais la présence de l'édredon, des colonnettes, de la petite cheminée, en mettant mon attention à un cran où elle n'était pas à Paris, m'empêcha de me livrer au train-train habituel de mes rêvasseries. Et comme c'est cet état particulier de l'attention qui enveloppe le sommeil et agit sur lui, le modifie, le met de plein pied avec telle ou telle série de nos souvenirs, les images qui remplirent mes rêves cette première nuit furent empruntées à une mémoire entièrement distincte de celle que mettait d'habitude à contribution mon sommeil. Si j'avais été tenté, en dormant, de me laisser réentraîner vers ma mémoire coutumière, le lit auquel je n'étais pas habitué, la douce attention que j'étais obligée de prêter à mes positions quand je me retournais suffisait à rectifier ou à maintenir le fil nouveau de mes rêves. Il en est du sommeil comme de la perception du monde extérieur. Il suffit d'une modification dans nos habitudes pour le rendre poétique. Il suffit qu'en nous déshabillant, nous nous soyons endormis sans le vouloir sur notre lit pour que les dimensions du sommeil soient changées et sa beauté sentie. On s'éveille, on voit 4 heures à sa montre, ce n'est que 4 heures du matin, mais nous croyons que toute la journée s'est écoulée, tant ce sommeil de quelques minutes, et que nous n'avions pas cherché, nous a paru descendu du ciel, en vertu de quelque droit divin, énorme et plein, comme le globe d'or d'un empereur. Le matin, ennuyé de penser que mon grand-père était prêt et qu'on m'attendait pour partir du côté de mes églises, je fus éveillé par la fanfare d'un régiment qui, tous les jours, passa sous mes fenêtres. Mais 2 ou 3 fois, et je le dis, car on ne peut bien décrire la vie des hommes si on ne la fait baigner dans le sommeil où elle plonge, et qui, nuit après nuit, la contourne, comme une presqu'île est cernée par la mer. Le sommeil interposé fut en moi assez résistant pour soutenir le choc de la musique, et je n'entendis rien. Les autres jours, il céda un instant, mais encore velouté d'avoir dormi, ma conscience, comme ses organes préalablement anesthésiés, par une cautérisation restée d'abord insensible, n'est perçue que tout à fait à sa fin et comme une légère brûlure, n'était touchée qu'avec douceur par les pointes aiguës des fifres qui la caressaient d'un vague et frais gazouillis matinal. Et après cette étroite interruption où le silence s'était fait musique, il reprenait avec mon sommeil avant même que les dragons eussent fini de passer, me dérobant les dernières gerbes épanouies du bouquet jaillissant et sonore. Et la zone de ma conscience, que ces tiges jaillissantes avaient effleurées, était si étroite, si circonvenue de sommeil, que plus tard, quand Saint-Loup me demandait si j'avais entendu la musique, je n'étais pas plus certain que le son de la fanfare n'eût pas été aussi imaginaire que celui que j'entendais dans le jour s'élever après le moindre bruit au-dessus des pavés de la ville. Peut-être ne l'avais-je entendu qu'en un rêve, par la crainte d'être réveillé, ou au contraire, de ne pas l'être et de ne pas voir le défilé. Car souvent, quand je restais endormi au moment où j'avais pensé au contraire que le bruit m'aurait réveillé, pendant 1 heure encore je croyais l'être, tout en sommeillant, et je me jouais à moi-même en minces ombres sur l'écran de mon sommeil les divers spectacles auxquels il m'empêchait, mais auxquels j'avais l'illusion d'assister. Ce qu'on aurait fait le tour, il arrive en effet, le sommeil venant, qu'on ne l'accomplisse qu'en rêve, c'est-à-dire après l'inflexion de l'ensommeillement, en suivant une autre voie qu'on eût fait éveiller. La même histoire tourne et a une autre fin. Malgré tout, le monde dans lequel on vit pendant le sommeil est tellement différent que ceux qui ont de la peine à s'endormir cherchent avant tout à sortir d'une autre. Après avoir désespérément, pendant 2 heures, les yeux clos, roulé des pensées pareilles à celles qu'ils auraient eues les yeux ouverts, ils reprennent courage s'ils s'aperçoivent que la minute précédente a été tout alourdie d'un raisonnement en contradiction formelle avec les lois de la logique et l'évidence du présent. Cette courte absence signifiant que la porte est ouverte par laquelle ils pourront peut-être s'échapper tout à l'heure de la perception du réel, aller faire une halte plus ou moins loin de lui, ce qui leur donnera un plus ou moins bon sommeil. Mais un grand pas est déjà fait quand on tourne le dos au réel, quand on atteint les premiers antres où les autosuggestions préparent comme des sorcières l'infernal fricot des maladies imaginaires ou de la recrudescence des maladies nerveuses, et guette l'heure où les crises remontées pendant le sommeil inconscient se déclencheront assez fortes pour le faire cesser. Non loin de là, est le jardin réservé où croissent, comme des fleurs inconnues, les sommeils si différents les uns des autres. Sommeil du datura, du chanvre indien, des multiples extraits de l'éther, sommeil de la belladone, de l'opium, de la valériane. Fleurs qui restent closes jusqu'au jour où l'inconnu prédestiné viendra les toucher, les épanouir, et pour de longues heures dégager l'arôme de leurs rêves particuliers en un être émerveillé et surpris. Au fond du jardin est le couvent aux fenêtres ouvertes où l'on entend répéter les leçons apprises avant de s'endormir et qu'on ne saura qu'au réveil. Tandis que, présage de celui-ci, fait résonner son tic-tac ce réveil matin intérieur que notre préoccupation a réglé si bien que, quand notre ménagère viendra nous dire « Il est 7 heures », elle nous trouvera déjà prêts. Aux parois obscures de cette chambre qui s'ouvre sur les rêves et où travaille sans cesse cet oubli des chagrins amoureux, duquel est parfois interrompu et défaite par un cauchemar plein de réminiscences, la tâche vite recommencée, pendent, même après qu'on est réveillé, les souvenirs des songes, mais si enténébrés que souvent nous ne les apercevons pour la première fois qu'en plein après-midi, quand le rayon d'une idée similaire vient fortuitement les frapper. Quelques-uns déjà, harmonieusement clairs pendant qu'on dormait, mais devenus si méconnaissables que, ne les ayant pas reconnus, nous ne pouvons que nous hâter de les rendre à la terre, ainsi que des morts trop vite décomposés, ou que des objets si gravement atteints et près de la poussière que le restaurateur le plus habile ne pourrait leur rendre une forme et rien en tirer. Près de la grille est la carrière, où les sommeils profonds viennent chercher des substances qui imprègnent la tête d'enduits si durs que, pour éveiller le dormeur, sa propre volonté est obligée, même dans un matin d'or, de frapper à grands coups de hache, comme un jeune Siegfried. Au-delà encore sont les cauchemars, dont les médecins prétendent, stupidement, qu'ils fatiguent plus que l'insomnie, alors qu'ils permettent au contraire aux penseurs de s'évader de l'attention. Les cauchemars, avec leurs albums fantaisistes, où nos parents qui sont morts viennent de subir un grave accident qui n'exclut pas une guérison prochaine. En attendant, nous les tenons dans une petite cage à rats, où ils sont plus petits que des souris blanches et couverts de gros boutons rouges, plantés chacun d'une plume, nous tiennent des discours cicéroniens. À côté de cet album est le disque tournant du réveil, grâce auquel nous subissons un instant l'ennui d'avoir à rentrer tout à l'heure dans une maison qui est détruite depuis 50 ans et dont l'image est effacée au fur et à mesure que le sommeil s'éloigne par plusieurs autres avant que nous arrivions à celle qui ne se présente qu'une fois le disque arrêté et qui coïncide avec celle que nous verrons avec nos yeux ouverts. Quelquefois, je n'avais rien entendu, étant dans un de ces sommeils où l'on tombe comme dans un trou, duquel on est tout heureux d'être tiré un peu plus tard. Lourd, surnourri, digérant tout ce que nous ont apporté, pareils aux nymphes qui nourrissaient Hercule, ces agiles puissances végétatives, à l'activité redoublée pendant que nous dormons. On appelle cela un sommeil de plomb. Il semble qu'on soit devenu soi-même, pendant quelques instants après qu'un tel sommeil a cessé, un simple bonhomme de plomb. On n'est plus personne. Comment, alors, cherchant sa pensée, sa personnalité comme on cherche un objet perdu, finit-on par retrouver son propre moi, plutôt que tout autre? Pourquoi, quand on se remet à penser, n'est-ce pas alors une autre personnalité que l'antérieur qui s'incarne en nous? On ne voit pas ce qui dicte le choix, et pourquoi, entre les millions d'êtres humains qu'on pourrait être, c'est sur celui qu'on était la veille qu'on met juste la main. Qu'est-ce qui nous guide, quand il y a eu vraiment interruption? Soit que le sommeil ait été complet, ou les rêves entièrement différents de nous. Il y a eu vraiment mort, comme quand le cœur a cessé de battre et que des tractions rythmées de la langue nous raniment. Sans doute la chambre, ne l'eussions-nous vue qu'une fois, éveille-t-elle des souvenirs auxquels les plus anciens sont suspendus. Ou quelques-uns dormaient-ils en nous-mêmes, dont nous prenons conscience? La résurrection au réveil, après ce bienfaisant accès d'aliénation mentale qu'est le sommeil, doit ressembler au fond à ce qui se passe quand on retrouve un nom, un vers, un refrain oublié. Et peut-être la résurrection de l'âme après la mort est-elle concevable comme un phénomène de mémoire? Quand j'avais fini de dormir, attiré par le ciel ensoleillé, mais retenu par la fraîcheur de ces derniers matins si lumineux et si froids où commence l'hiver, pour regarder les arbres où les feuilles n'étaient plus indiquées que par une ou deux touches d'or ou de rose qui semblaient être restées en l'air, dans une trame invisible, je levai la tête et tendais le cou tout en gardant le corps à demi caché dans mes couvertures. Comme une chrysalide en voie de métamorphose, j'étais une créature double aux diverses parties de laquelle ne convenait pas le même milieu. À mon regard, suffisait de la couleur, sans chaleur. Ma poitrine, par contre, se souciait de chaleur et non de couleur. Je ne me levais que quand mon feu était allumé, et je regardais le tableau, si transparent et si doux de la matinée mauve et dorée, à laquelle je venais d'ajouter, artificiellement, les parties de chaleur qui lui manquaient, tisonnant mon feu qui brûlait et fumait comme une bonne pipe, et qui me donnait, comme elle eût fait un plaisir à la fois grossier parce qu'il reposait sur un bien-être matériel et délicat, parce que derrière lui s'estompait une pure vision. Mon cabinet de toilette était tendu d'un papier à fond d'un rouge violent, que parsemaient des fleurs noires et blanches, auxquelles il semble que j'aurais dû avoir quelque peine à m'habituer. Mais elles ne firent que me paraître nouvelles, que me forcer à entrer non en conflit, mais en contact avec elles, que modifier la gaieté et les chants de mon lever. Elles ne firent que me mettre de force au cœur d'une sorte de coquelicot pour regarder le monde, que je voyais tout autre qu'à Paris, de ce guet paravent qu'était cette maison nouvelle, autrement orientée que celle de mes parents, et où affluait un air pur. Certains jours, j'étais agitée par l'envie de revoir ma grand-mère, ou par la peur qu'elle ne fût souffrante. Ou bien, c'était le souvenir de quelque affaire laissée en train à Paris et qui ne marchait pas. Parfois aussi, quelque difficulté dans laquelle, même ici, j'avais trouvé le moyen de me jeter. L'un ou l'autre de ces soucis m'avait empêché de dormir et j'étais sans force contre ma tristesse, qui, en un instant, remplissait pour moi toute l'existence. Alors, de l'hôtel, j'envoyai quelqu'un au quartier avec un mot pour Saint-Loup. Je lui disais que, si cela lui était matériellement possible, je savais que c'était très difficile, il fut assez bon pour passer un instant. Au bout d'une heure, il arrivait. Et en entendant son coup de sonnette, je me sentais délivrée de mes préoccupations. Je savais que si elles étaient plus fortes que moi, il était plus fort qu'elles, et mon attention se détachait d'elle et se tournait vers lui qui avait à décider. Il venait d'entrer. Et déjà, il avait mis autour de moi le plein air où il déployait tant d'activités depuis le matin, milieu vital fort différent de ma chambre et auquel je m'adaptais immédiatement par des réactions appropriées. « J'espère que vous ne m'en voulez pas de vous avoir dérangé. J'ai quelque chose qui me tourmente. Vous avez dû le deviner. » « Mais non, j'ai pensé simplement que vous aviez envie de me voir et j'ai trouvé ça très gentil. J'étais enchantée que vous m'ayez fait demander. « Mais quoi, ça ne va pas alors? Qu'est-ce qu'il y a pour votre service ?» Il écoutait mes explications, me répondait avec précision. Mais avant même qu'il eût parlé, il m'avait fait semblable à lui. À côté des occupations importantes qui le faisaient si pressé, si alerte, si content, Les ennuis qui m'empêchaient tout à l'heure de rester un instant sans souffrir me semblaient, comme à lui, négligeables. J'étais comme un homme qui, ne pouvant ouvrir les yeux depuis plusieurs jours, fait appeler un médecin, lequel, avec adresse et douceur, lui écarte la paupière, lui enlève et lui montre un grain de sable. Le malade est guéri et rassuré. Tous mes tracas se résolvaient en un télégramme que Saint-Loup se chargeait de faire partir. La vie me semblait si différente, si belle. J'étais inondée d'un tel trop plein de force que je voulais agir. « Que faites-vous maintenant ? » disais-je à Saint-Loup. « Je vais vous quitter, car on part en marche dans 3/4 d'heure, et on a besoin de moi. » « Alors, ça vous a beaucoup gêné de venir ?»« Non, ça ne m'a pas gêné. Le capitaine a été très gentil. Il a dit que du moment que c'était pour vous, il fallait que je vienne. Mais enfin, je ne veux pas avoir l'air d'abuser. »«
Mais si je me levais vite, et si j'allais de mon côté à l'endroit où vous allez manœuvrer, cela m'intéresserait beaucoup, et je pourrais peut-être causer avec vous dans les pauses. » »«
Je ne vous le conseille pas. Vous êtes resté éveillé, vous vous êtes mis martel en tête pour une chose qui, je vous assure, est sans aucune conséquence. Mais maintenant qu'elle ne vous agite plus, retournez-vous sur votre oreiller et dormez, ce qui sera excellent contre la déminéralisation de vos cellules nerveuses. Ne vous endormez pas trop vite, parce que notre garce de musique va passer sous vos fenêtres. Mais aussitôt après, je pense que vous aurez la paix. Et nous nous reverrons ce soir à dîner. » Mais un peu plus tard, j'allais souvent voir le régiment faire du service en campagne, quand je commençais à m'intéresser aux théories militaires que développaient à dîner les amis de Saint-Loup, et que cela devint le désir de mes journées de voir de plus près leurs différents chefs, comme quelqu'un qui fait de la musique sa principale étude et vit dans les concerts, a du plaisir à fréquenter les cafés où l'on est mêlé à la vie des musiciens de l'orchestre. Pour arriver au terrain de manœuvre, il me fallait faire de grandes marches. Le soir, après le dîner, l'envie de dormir faisait par moments tomber ma tête comme un vertige. Le lendemain, je m'apercevais que je n'avais pas plus entendu la fanfare qu'à Balbec, le lendemain des soirs où Saint-Loup m'avait emmené dîner à Rivebelle. Je n'avais entendu le concert de la plage. Et au moment où je voulais me lever, j'en éprouvais délicieusement l'incapacité. Je me sentais attaché à un sol invisible et profond par les articulations, que la fatigue me rendait sensible, de radicelles musculeuses et nourricières. Je me sentais plein de force, la vie s'étendait plus longue devant moi. C'est que j'avais reculé jusqu'aux bonnes fatigues de mon enfance à Combray, le lendemain des jours où nous nous étions promenés du côté de Guermantes. Les poètes prétendent que nous retrouvons un moment ce que nous avons jadis été en rentrant dans telle maison, dans un tel jardin où nous avons vécu jeunes. Ce sont là pèlerinages fort hasardeux, et à la suite desquels on compte autant de déceptions que de succès. Les lieux fixes, contemporains d'années différentes, c'est en nous-mêmes qu'il vaut mieux les trouver. C'est à quoi peuvent, dans une certaine mesure, nous servir une grande fatigue que suit une bonne nuit. Celle-là, du moins, pour nous faire descendre dans les galeries les plus souterraines du sommeil, où aucun reflet de la veille, aucune lueur de mémoire n'éclaire plus le monologue intérieur, si tant est que lui-même n'y cesse pas, retourne si bien le sol et le tuf de notre corps qu'elles nous font retrouver, là où nos muscles plongent et tordent leurs ramifications et aspirent la vie nouvelle, le jardin où nous avons été enfants. Il n'y a pas besoin de voyager pour le revoir, il faut descendre pour le retrouver. Ce qui a couvert la terre n'est plus sur elle, mais dessous. L'excursion ne suffit pas pour visiter la ville morte, les fouilles sont nécessaires. Mais on verra combien certaines impressions fugitives et fortuites ramènent bien mieux encore vers le passé, avec une précision plus fine
d'un vol plus léger, plus immatériel, plus vertigineux, plus infaillible, plus immortel que ces dislocations organiques. Quelquefois, ma fatigue était plus grande encore. J'avais, sans pouvoir me coucher, suivi les manœuvres pendant plusieurs jours. Que le retour à l'hôtel était alors béni. En entrant dans mon lit, il me semblait avoir enfin échappé à des enchanteurs, à des sorciers, tels que ceux qui peuplent les romans aimés de notre XVIIe siècle. Mon sommeil et ma grasse matinée du lendemain n'étaient plus qu'un charmant conte de fées. Charmant, bienfaisant peut-être aussi. Je me disais que les pires souffrances ont leur lieu d'asile, qu'on peut toujours, à défaut de mieux, trouver le repos. Ces pensées me menaient fort loin. Les jours où il y avait repos, et où Saint-Loup ne pouvait cependant pas sortir, j'allais souvent le voir au quartier. C'était loin. Il fallait sortir de la ville, franchir le viaduc, des deux côtés duquel j'avais une immense vue. Une forte brise soufflait presque toujours sur ces hauts lieux et emplissait les bâtiments construits sur trois côtés de la cour qui grondaient sans cesse comme un antre des vents. Tandis que pendant qu'il était occupé à quelque service, j'attendais Robert devant la porte de sa chambre ou au réfectoire, en causant avec tel de ses amis auxquels il m'avait présenté, et que je vins ensuite voir quelquefois, même quand il ne devait pas être là. Voyant par la fenêtre, à 100 mètres au-dessous de moi, la campagne dépouillée, mais où çà et là des semis nouveaux, souvent encore mouillés de pluie et éclairés par le soleil, mettaient quelques bandes vertes d'un brillant et d'une limpidité translucide d'émail, il m'arrivait d'entendre parler de lui. Et je pus bien vite me rendre compte combien il était aimé et populaire. Chez plusieurs engagés, appartenant à d'autres escadrons, jeunes bourgeois riches qui ne voyaient la haute société aristocratique que du dehors et sans y pénétrer, la sympathie qu'excitait en eux ce qu'ils savaient du caractère de Saint-Loup se doublait du prestige qu'avait à leurs yeux le jeune homme que, souvent le samedi soir, quand ils venaient en permission à Paris, ils avaient vu souper au café de la paix avec le duc d'Uzès et le prince d'Orléans. Et à cause de cela, dans sa jolie figure, dans sa façon dégingandée de marcher, de saluer, dans le perpétuel lancer de son monocle, dans la fantaisie de ses képis trop hauts, de ses pantalons d'un drap trop fin et trop rose, ils avaient introduit l'idée d'un « chic » dont ils assuraient qu'étaient dépourvus les officiers les plus élégants du régiment, même le majestueux capitaine à qui j'avais dû de coucher au quartier, lequel semblait, par comparaison, trop solennel et presque commun. L'un disait que le capitaine avait acheté un nouveau cheval. « Il peut acheter tous les chevaux qu'il veut. » J'ai rencontré Saint-Loup dimanche matin, allée des Acacias. Il monte avec un autre chic, répondait l'autre, et en connaissance de cause, car ces jeunes gens appartenaient à une classe qui, si elle ne fréquente pas le même personnel mondain, pourtant, grâce à l'argent et aux loisirs, ne diffère pas de l'aristocratie dans l'expérience de toutes celles des élégances qui peuvent s'acheter. Tout au plus, la leur avait-elle, par exemple en ce qui concernait les vêtements, quelque chose de plus appliqué et de plus impeccable que cette libre et négligente élégance de Saint-Loup qui plaisait tant à ma grand-mère. C'était une petite émotion pour ces fils de grands banquiers ou d'agents de change, en train de manger des huîtres après le théâtre, de voir, à une table voisine de la leur, le sous-officier Saint-Loup. Et que de récits faits au quartier le lundi en rentrant de permission par l'un d'eux qui était de l'escadron de Robert et à qui il avait dit bonjour très gentiment, par un autre qui n'était pas du même escadron mais qui croyait bien que malgré cela Saint-Loup l'avait reconnu car deux ou trois fois il avait braqué son monocle dans sa direction. « Oui, mon frère l'a aperçu à la paix, » disait un autre qui avait passé la journée chez sa maîtresse.
Il paraît même qu'il avait un habit trop large et qui ne tombait pas bien.
Comment était son gilet ?
Il n'avait pas de gilet blanc, mais mauve avec des espèces de palmes et poilant.
Pour les anciens, hommes du peuple ignorant le jockey et qui mettaient seulement Saint-Loup dans la catégorie des sous-officiers très riches, où il faisait entrer tous ceux qui, ruinés ou non, menaient un certain train, avaient un chiffre assez élevé de revenus ou de dettes et étaient généreux avec les soldats. La démarche, le monocle, les pantalons, les képis de Saint-Loup, s'il n'y voyait rien d'aristocratique, n'offraient pas cependant moins d'intérêt de signification. Ils reconnaissaient dans ces particularités le caractère, le genre qu'ils avaient assigné une fois pour toutes à ce plus populaire des gradés du régiment. Manières pareilles à celles de personnes, dédain de ce que pourraient penser les chefs, et qui leur semblait la conséquence naturelle de sa bonté pour le soldat. Le café du matin dans la chambrée, ou le repos sur les lits pendant l'après-midi, paraissait meilleur quand quelque ancien servait à l'escouade gourmande et paresseuse quelques savoureux détails sur un képi qu'avait Saint-Loup.
« Aussi haut comme mon paquetage !»«
Voyons, vieux, tu veux nous la faire à l'oseille. Il ne pouvait pas être aussi haut que ton paquetage !» interrompait un jeune licencié ès-lettres qui cherchait, en usant de ce dialecte, à ne pas avoir l'air d'un bleu et, en osant cette contradiction, à se faire confirmer un fait qui l'enchantait.
« Ah, il n'est pas aussi haut que mon paquetage. Tu l'as mesuré, peut-être ?»
Je te dis que le lieutenant Colomb le fixait comme s'il voulait le mettre au bloc. Et faut pas croire que mon fameux Saint-Loup s'épatait. Il allait, il venait, il baissait la tête, il la relevait, et toujours ce coup de monocle. Faudra voir ce que va dire le capiston. Il se peut qu'il ne dise rien, mais pour sûr que cela ne lui fera pas plaisir. Mais ce képi-là, il n'a encore rien d'épatant. Il paraît que chez lui, en ville, il en a plus de 30.
Comment que tu le sais, vieux ? Par notre sacré cabot ?
Demandait le jeune licencié avec pédantisme, étalant les nouvelles formes grammaticales qu'il n'avait apprises que de fraîche date et dont il était fier de parer sa conversation.
Comment que je le sais ? Par son ordonnance, pardi !
Tu parles qu'en voilà un qui ne doit pas être malheureux.
Je comprends, il a plus de braise que moi, pour sûr.
Et encore, il lui donne tous ses effets, et tout.
Il n'avait pas à sa suffisance à la cantine. Voilà mon de Saint-Loup qui s'est amené, et le cuistot en a entendu. Je veux qu'il soit bien nourri, ça coûtera ce que ça coûtera.
Et l'ancien rachetait l'insignifiance des paroles par l'énergie de l'accent, en une imitation médiocre qui avait le plus grand succès.